Duba ba mara ga WhatsApp ka wan Farafina ne.
Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, sommaire de cette édition du mercredi 30 octobre 2024. Kamala Harris et Donald Trump jouent des coudes dans les états clés à moins d'une semaine de la présidentielle américaine. Dans cette édition, nous irons dans l'Ohio où démocrates et républicains se battent pour le siège de sénateur.
Ohio est un état rouge, mais les villes, principalement Cleveland et Columbus, souvent sont fortement démocrates.
Docteur Ibra Hassan, professeur associé au Worcester College, va nous éclairer dans un instant sur ce duel. Le Botswana organise aujourd'hui des élections générales. Le président Mokwesi Masisi fait face à 3 autres candidats. Au Togo, les autorités sont des alternatives au bois de chauve pour préserver les forêts.
Nous avons pu réaliser le reboisement de la galerie de la rivière Klipa sur 30 hectares, soit 6 km de part et d'autre de cette rivière. Aujourd'hui, si vous allez là-bas, la biodiversité est revenue.
Reportage à suivre dans nos dossiers. À 6 jours de la présidentielle américaine, la démocrate Kamala Harris et le républicain Donald Trump semblent se suivre à la trace dans les 7 états pivots. Ils se rendent ce mercredi tous les deux dans le Wisconsin, un état de la région des Grands Lacs, après un chassé-croisé des deux candidats en Caroline du Nord ce matin. Cela dit, les opérations de vote anticipées se poursuivent dans de nombreux états, dont la capitale Washington DC. Notre reporter Dilly Dico se trouve dans un bureau de vote justement dans la capitale américaine. Bonsoir, Dilly Dico.
Bonsoir, Jean-Roger.
Alors, quelle est l'ambiance là où vous vous situez en ce moment?
Ici, l'ambiance est très sereine, Jean-Roger, à la bibliothèque West End, qui se trouve en fait dans l'ouest de Washington, D.C., dans le quartier de Foggy Bottom. Ce n'est pas très loin du département d'État et de l'université George Washington. Et depuis ce moment, j'ai vu beaucoup d'étudiants et aussi des seniors, donc beaucoup de personnes âgées qui sont venues voter. Et dans ce bureau de vote, les électeurs ont la possibilité de choisir de voter, soit directement sur une machine ou d'utiliser des bulletins de vote en papier, en sélectionnant en fait leur choix. Et donc, au-delà du choix des candidats, ceux qui doivent choisir, ils doivent répondre à des questions référendaires. Donc ça, c'est l'autre enjeu des élections.
Vous avez dit questions référendaires, de quoi s'agit-il?
Alors, une question référendaire, en anglais, c'est « ballot proposition ». C'est une question qui est placée sur un bulletin de vote au niveau de l'État ou d'une municipalité pour que les électeurs se prononcent sur un sujet lors de l'élection. Et ces questions peuvent être soumises soit par les citoyens directement à travers une pétition ou venir directement des législateurs de cet État. Et les propositions, en fait, peuvent être des initiatives ou des amendements ou des référendums. Et elles sont importantes parce qu'elles appellent, en fait, les citoyens à se prononcer directement sur des sujets qui les concernent. Et cette année, il y a 159 mesures ou questions référendaires qui ont été certifiées dans 41 États américains.
Alors, Dilly, pouvez-vous nous parler brièvement de quelques questions de mesures référendaires?
Alors, il y a vraiment beaucoup de mesures référendaires, comme je l'ai dit, et la grande question cette année, c'est le droit à l'avortement. Donc, dès mardi prochain, certains électeurs vont se prononcer sur 11 projets de loi sur l'avortement dans 11 États, donc 11 des 50 États américains, dont la Floride, New York, mais aussi l'Arizona et le Maryland. Et outre le droit à l'avortement, il y a aussi l'accès des non-citoyens, donc des personnes non-américaines, au vote. Et 8 États sont concernés par cela. L'autre question aussi qui apparaît sur certains bulletins de vote, dans 6 États précisément, c'est la légalisation de la marijuana, donc la possession, la production ou la vente. Et le salaire minimum est également une question importante dans 6 États, dont la Californie et le Massachusetts. Et une autre question qui importe pour les Américains et qui apparaît sur les bulletins de vote dans 3 États, donc Californie, Colorado et Hawaï, c'est le droit des personnes homosexuelles. Donc je vous propose en fait d'écouter un extrait d'une jeune femme à laquelle j'ai parlé ici à la sortie du bureau de vote, qui a parlé de l'importance en fait d'avoir ces questions référendaires sur les bulletins de vote. On l'écoute.
Je pense qu'il est important d'avoir des mesures sur le bulletin de vote lorsque les gens votent, simplement pour donner plus de choix aux électeurs eux-mêmes. Je crois que des sujets importants comme l'avortement, les soins de santé et l'économie, des questions qui touchent le quotidien des Américains, doivent figurer sur le bulletin de vote, car ce sont des choses qui impactent directement le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Je pense que les temps changent constamment et que les gens qui vivent aux États-Unis changent aussi constamment. C'est le but du melting pot dans lequel nous vivons. Donner une voix à ce qui est actuellement nécessaire en Amérique aujourd'hui, et non à ce qui était nécessaire il y a des décennies ou des siècles, lorsque cela semblait juste. Je pense qu'il est très important que le bulletin de vote évolue avec les électeurs.
Compte rendu de l'ambiance dans un bureau de vote de Washington, c'était avec Dilly Dico. Les candidats Donald Trump et Kamala Harris jettent donc leur dernière force dans la bataille en concentrant leurs efforts dans les fameux swing states, ces états pivots qui vont déterminer l'issue du scrutin. L'Ohio, qui était sur cette liste, est de plus en plus considéré comme un fief républicain. L'enjeu cette année pour cet état du Midwest est la course sénatoriale. Le siège du démocrate Sherrod Brown est menacé par un candidat soutenu par Donald Trump. Pour parler de tout cela, Abdourahman Dia a joint Dr Ibra Sen, professeur associé au Worcester College.
À part la présidentielle, les habitants d'Ohio doivent élire un sénateur. Et en plus de cela, il y a un certain nombre de représentants qui doivent être renouvelés dans certaines des circonscriptions. L'État d'Ohio en a 15. Mais enfin, il y a quelques dépendants de la région dans laquelle on est, dans l'État d'Ohio. Il y a certaines questions référendaires également qui vont être soumises aux électeurs. Pour la présidentielle, Ohio est un État profondément rouge, comme on dit. Donc, il n'y a pas beaucoup de crainte par rapport à la victoire des républicains. Donc, à ce niveau, il n'y a pas vraiment beaucoup de danger.
Docteur Sen, pourquoi l'État de l'Ohio est devenu ces dernières années un État foncièrement républicain et donc a perdu un peu son statut de swing state, comme on dit?
Si on considère les 10 dernières élections présidentielles, on voit que Clinton a remporté l'État d'Ohio à 2 reprises. À partir de Clinton, c'est uniquement Obama qui a remporté ça en 2008 et en 2012. Hillary Clinton a été battue et Biden aussi a été battu par Trump en 2020. Et il y a un ensemble de facteurs qui jouent. Il y a l'économie qui joue. Il y a un ensemble de personnes dans le monde rural particulièrement qui sont senties abandonnés et qui ont cru que les démocrates ont considéré que parce qu'ils sont des gens des classes laborieuses ou bien des classes ouvrières, c'est des gens qui votent normalement démocrates. Durant l'élection de 2016, ils ont voté massivement pour Trump.
Alors donc, l'attention de beaucoup d'électeurs pour l'État de l'Ohio, mais également au niveau national, c'est l'élection du sénateur.
Il y a plusieurs raisons. Certaines raisons sont liées à l'État d'Ohio, mais d'autres raisons sont liées à la situation politique nationale. Au niveau d'Ohio, Sherrod Brown est élu depuis 2006, si je ne me trompe, et depuis lors, il a été réélu plusieurs fois. Et bon, Ohio est un État rouge, mais les villes, principalement Cleveland et Columbus, souvent sont fortement démocrates. Et lui, il est vraiment centriste sur certains côtés, et pour cette raison, il peut vraiment mobiliser les gens qui ne sont pas nécessairement des gens qui sont républicains radicaux, Donc, il a pu vraiment jouer cela pendant très longtemps. Mais des gens comme Sherrod Brown au niveau d'Ohio, au niveau national, ont commencé à avoir des problèmes depuis 2016. Lorsque Trump a été élu.
Parlez-nous un peu de son adversaire. Qui est-il et que représente-t-il?
C'est un gars qui n'est pas vraiment connu dans la politique, c'est Bernie Moreno, mais sa force, c'est qu'il baigne dans ce mouvement pro-Trump qui a élu Vance. Le colistier de Trump a été élu de la même manière. C'est un gars qui a grandi dans le monde rural. Et c'est des gens qui se sont appropriés du discours de Trump.
Dr. Ibra Sen, professeur associé au Worcester College. Les agriculteurs américains sont confrontés à des tendances économiques radicalement opposées alors qu'ils se rendent aux urnes en cette année. Un reportage de Ken Farabao depuis l'Illinois, le récit avec Alexandrine Ollagnon.
Le soleil se lève chaque jour avec sa saison d'incertitude dans la ferme de John Ackerman, dans l'Illinois.
Dans l'Illinois, nous avons plus de 25 000 hectares de citrouilles la plupart du temps.
L'Illinois est le premier état producteur de citrouilles aux États-Unis et cette culture génère environ la moitié des revenus de Ackerman. Cette année, il a cultivé beaucoup de citrouilles et de courges, même dans un contexte de sécheresse. Mais sa plus grande incertitude n'est pas le temps qu'il fera, mais l'interruption du financement d'une loi importante appelée Farm Bill.
Il me donne la possibilité de souscrire une assurance.
Les petits agriculteurs comme lui comptent sur les subventions de la loi agricole pour payer leur assurance récolte, qui les aide à obtenir des financements auprès des prêteurs pour continuer à fonctionner.
Si je ne peux pas leur montrer que je peux souscrire une assurance qui me couvrira en cas de catastrophe, cela affecte leur capacité à me prêter de l'argent.
Cette assurance représente environ 10% de la loi agricole de 10 ans, d'une valeur de plus de 1 000 milliards de dollars. Le financement de cette loi agricole a pris fin le 30 septembre et les législateurs débattent de son renouvellement. Le Congrès est en vacances jusqu'aux élections, ce qui est une autre grande source d'incertitude pour Ackerman.
Le revenu agricole va vraiment chuter cette année.
Il attribue cette situation au prix élevé des intrants, comme les engrais, et au faible prix de ses cultures de maïs et de soja. Ces prix sont bas, en partie parce que la Chine a imposé des droits de douane sur le soja américain en représailles aux droits de douane imposés par l'administration Trump sur l'acier chinois, deux mesures qui se sont poursuivies pendant la présidence de Joe Biden.
Les achats de la Chine ont chuté, donc les droits de douane vont d'abord affecter les agriculteurs.
L'actuel débat de campagne sur l'augmentation des droits de douane est une autre source d'inquiétude pour David Isserman, un agriculteur de Streator dans l'Illinois.
Ça me fait peur.
Alors que Isserman traite les produits céréaliers récoltés dans ses champs, il se demande s'il doit les vendre maintenant ou les stocker en espérant de meilleurs prix plus tard. Il s'inquiète des conséquences à long terme des droits de douane.
Nous avons perdu ce marché du soja au profit de la Chine et de l'Amérique du Sud.
Ryan Whitehouse est le directeur de la législation nationale pour l'Illinois Farm Bureau qui défend les intérêts des agriculteurs auprès des législateurs.
Veiller à ce que des droits de douane ne soient pas imposés est une priorité absolue pour notre organisation.
Selon Isserman, la guerre commerciale avec la Chine n'a pas seulement affecté les prix des produits agricoles, mais a aussi de l'effet sur les équipements.
Elle a probablement fait augmenter les prix de nombreux équipements parce que les prix de l'acier et de l'aluminium ont augmenté et qu'il y a beaucoup d'acier et d'aluminium dans les équipements agricoles.
L'administration Trump a accordé aux agriculteurs des subventions supplémentaires pour compenser les effets des droits de douane, mais elles n'ont pas couvert toutes les pertes, dit Sherman.
Je ne sais pas si cela nous a totalement indemnisés.
Ackerman espère que le candidat qui remportera la Maison-Blanche cette année, ainsi que les sièges à la Chambre des représentants et au Sénat des États-Unis, va garder à l'esprit le sort des agriculteurs américains.
Sommes-nous bien représentés? Je ne le pense pas, pour être honnête.
Isserman et Ackerman affirment tous deux qu'il est essentiel d'adopter le projet de loi agricole le plus rapidement possible, quel que soit le parti qui sera à la tête du gouvernement au lendemain des élections.
Dans le cadre de l'élection présidentielle américaine du 5 novembre, la candidate du Parti vert, Jill Stein, ne recueille qu'environ 1% des suffrages, mais sa candidature pourrait avoir un impact considérable sur le résultat, certains analystes politiques prédisant même qu'un petit pourcentage de votes en faveur de Jill Stein pourrait faire la différence dans des états clés. C'est un sujet de Maxime Adams, le récit est de Lionel Gaïva.
Ce n'est pas la première fois que Jill Stein, candidate du Parti vert, se présente à la présidence des États-Unis. En 2016, elle a obtenu un peu plus de 1% de voix. De nombreux démocrates estiment que ces votes ont coûté la présidence à Hillary Clinton. Dans le Michigan, par exemple, Donald Trump a battu Hillary Clinton avec moins de 11 000 voix, alors que Jill Stein a obtenu plus de 51 000 voix. Certains experts affirment qu'il n'est pas certain que tous les votes en faveur de Stein seraient allés à Clinton. Kyle Kondig est un analyste électoral au Center for Politics de l'Université de Virginie.
Je ne pense pas qu'il soit facile de dire « Oh, cette personne ne fait que voler des votes », parce qu'on ne sait pas quel serait le comportement de ses électeurs s'ils étaient obligés de faire un choix dans les deux sens.
Une situation similaire s'est produite en 2000 lorsque le candidat du Parti vert, Ralph Nader, a obtenu près de 100 000 voix en Floride, et que George W. Bush a battu Al Gore avec seulement 537 voix d'avance. Jack Rakov est un historien constitutionnel à l'université de Stanford.
Le problème avec cette formule, c'est qu'en cas d'élection très disputée, on suppose que le deuxième choix des citoyens compte vraiment. Je pense que ce modèle est erroné. Les personnes qui choisissent de voter pour des candidats tiers le font pour des raisons indépendantes de leur volonté. Elles sont tellement exaspérées par les partis existants qu'elles créent en fait un vote de protestation.
Pourtant, les démocrates s'inquiètent à nouveau du fait que Stein pourrait jouer un rôle de trouble-fête lors de ces élections, l'accusant même, dans certains cas, devrait à l'affaiblissement de Harris. Lorsque VOA a contacté la campagne de Stein, le co-directeur de presse Sam Pfeiffer a répondu en disant que l'attaque d'un candidat tiers, je cite, n'est pas seulement une attaque contre la démocratie, mais une forme de suppression d'électeurs pour intimider les gens afin qu'ils ne votent pas pour qui ils veulent ou même qu'ils ne votent pas du tout. Mais dans des États comme le Michigan, où l'on trouve la plus forte concentration des musulmans aux États-Unis, le Parti vert pourrait avoir plus d'influence. En effet, de nombreux musulmans préoccupés par la crise humanitaire à Gaza sont en colère contre le soutien de la Maison Blanche à Israël. Selon un rapport publié le mois dernier par le Conseil de relations américano-islamiques, 40% des musulmans du Michigan ont déclaré qu'ils prévoyaient de voter pour Stein, tandis que 12% ont dit qu'ils voteraient pour Harris. John Fortier est chargé de recherche à l'American Enterprise Institute, un groupe de réflexion.
Elle prendra plus de voix à Kamala Harris et les démocrates dans les états clés n'ont pas réussi à l'écarter du scrutin. Ainsi, si la course se résume à quelques états proches, elle a la possibilité d'influencer les états pivots le jour de l'élection.
La même étude montre que davantage de musulmans prévoient de voter pour Stein plutôt que pour Harris dans le Wisconsin et l'Arizona, des états clés où Joe Biden a battu de justesse Donald Trump en 2020. Dans une année électorale où le vainqueur est trop incertain pour être désigné, les votes des Verts pourraient faire la différence.
VOA Afrique, vous suivez le journal, la suite de cette édition avec l'actualité africaine. Le chef de l'opposition mozambicaine Venancio Mondlane a appelé à une grève d'une semaine à partir de demain jeudi pour protester contre les résultats des élections du 9 octobre après quelques jours d'accalmie et un recours déposé devant la plus haute cour du pays demandant un nouveau comptage des voix. M. Mondlane, 50 ans soutenu par le parti Podemos et qui a revendiqué la victoire peu après le scrutin, a appelé à une grève nationale jusqu'au 7 novembre. Au Mali, Médecins sans frontières a annoncé aujourd'hui suspendre ses opérations à Nampala, dans le centre du pays, après de récentes violences contre ses personnels et des agents de santé dans cette zone. MSF impute dans un communiqué ces violences à des hommes armés menant régulièrement des opérations militaires dans la zone sans préciser son propos. La marine sénégalaise a porté secours mardi au large des côtes nationales à 150 à 183 migrants irréguliers à bord d'une pirogue sur la route maritime de l'Europe. L'opération porte à 582 le nombre de migrants secourus en 10 jours alors qu'ils tentent de regagner l'Europe via l'archipel espagnol des Canaries à bord de pirogues surchargées. Sans transition, les dossiers du jour. Au Togo, certaines communautés continuent de couper massivement les arbres pour faire des bois de chauffe ou de charbon de bois pour les inciter à délaisser ces pratiques qui participent à la déforestation massive du couvert végétal. Les autorités togolaises initient des projets qui offrent d'autres alternatives à ces populations. De Lomé, la correspondance de Kossi Woussou.
Dans le village d'Ando Centre, dans la préfecture de la V, au sud-est du Togo, Pegba Tine montre fièrement la dizaine de bêtes dans son enclos. Ancienne productrice de charbon de bois, elle a abandonné ce métier pour se consacrer à l'élevage grâce à un projet initié par les autorités dans son canton.
Nous abattions les arbres pour en faire du charbon de bois pour subvenir aux besoins de nos familles. Le projet nous a proposé l'élevage en remplacement en nous fournissant des géniteurs. Aujourd'hui, je possède un petit cheptel d'une dizaine de chèvres dans mon enclos.
Associées à l'élevage, d'autres activités sont inscrites dans le projet comme le reboisement des berges de l'unique rivière qui traverse le canton. Judith Bokoy-Eplé, la coordinatrice de l'Association panafricaine des femmes unies pour le développement, aide à la mise en œuvre de ce projet dans la localité.
Nous avons pu réaliser le reboisement de la galerie de la rivière Klikpa sur 30 hectares, soit 6 km de part et d'autre de cette rivière. Aujourd'hui, si vous allez là-bas, la biodiversité est revenue carrément. Donc, c'est vraiment une grande joie pour nous.
Cependant, certaines activités comme l'aménagement d'un espace pour le maraîchage connaissent des difficultés. Judith Bokoy-Eplé ne perd pas espoir.
Nous avons formé des coopératives de 50 personnes. Bien que l'activité de maraîchage n'a pas pu éclore comme souhaité, et nous les avons équipées en matériel maraîcher et d'autres équipements d'irrigation, en attendant d'avoir un bon système d'irrigation pour un vrai espace aménagé.
Dans le canton d'Ando, un élément capital de ce projet de résilience des communautés ne peut être réalisé. Il s'agit de la réhabilitation d'un petit pont qui enjambe la rivière Klikpa, qui permet une circulation des personnes et des biens pendant la saison des pluies. Yao Komi, coordonnateur adjoint du projet Waka Togo, explique les raisons de la non-réhabilitation de ce pont.
L'ONG qui portait le sous-projet a inscrit la réhabilitation du ponceau avec un coût estimatif d'un peu plus de 23 millions. Et à la mise en œuvre, on s'est rendu compte qu'il faut carrément reconstruire le pont. Et le budget pour pouvoir reconstruire ce pont, nos techniciens l'avaient estimé à 250 millions. Ça devient un autre projet carrément.
Des appels ont été lancés aux autorités et à d'autres partenaires techniques et financiers pour la réalisation rapide de ce pont vital pour les populations dans le canton d'Ando. Kossi Woussou, Lomé pour VOA Afrique.
Les militants islamistes qui se battent au Burkina Faso mènent une campagne pour étendre leur empreinte en Afrique de l'Ouest. Cette source, dont des responsables de la sécurité et des diplomates ghanéens, ont déclaré à Reuters que les combattants utilisent discrètement le nord du Ghana comme base arrière logistique et médicale. Ils s'approvisionnent en nourriture, en carburant et même en explosifs et font soigner les combattants blessés à l'hôpital. Les précisions de John Midon.
Le Burkina Faso a perdu le contrôle de plus de la moitié de son territoire à la suite de la progression d'un groupe pro-Al-Qaïda connu sous le nom de Jenim. Dans un rapport récent, Klingendel de l'Institut néerlandais des relations internationales a déclaré que le Ghana semblait avoir accepté un pacte de non-agression de facto avec le Jenim, citant des sources gouvernementales de haut rang. Les experts estiment que cela risque de permettre aux militants de s'enraciner au Ghana.
Nous avons constaté un certain nombre d'incidents au cours desquels le Djenim ou des associés du Djenim sont probablement présents au Ghana depuis un certain temps, passant temporairement et effectuant des achats et essayant parfois de recruter. Il s'agit donc d'un véritable signal d'alarme.
Le Ghana organise des élections le 7 décembre. Il est considéré comme une démocratie forte et entretient des relations étroites avec l'Occident.
Le Ghana veut vraiment s'assurer que les élections auront lieu et qu'il n'y aura pas d'attaque. Ils connaissent bien sûr les risques qu'ils courent au Ghana et ils savent de quoi les extrémistes sont capables et ils veulent vraiment empêcher cela. Le Djenim, en même temps, va devoir faire face à une armée très engagée et très forte, je dirais. Et je veux dire, ils ne veulent pas attaquer leur propre ligne de ravitaillement et leur refuge.
Le Ghana partage une frontière de 643 km avec le Burkina Faso. Le pays est au cœur d'une insurrection qui a fait des milliers de morts et des millions de déplacés. Selon les experts, la région du Sahel est désormais l'épicentre du terrorisme mondial, car les factions fidèles à Al-Qaïda et à l'État islamique étendent leur présence. Contrairement au Bénin et au Togo, le Ghana n'a pas subi d'attaque majeure. L'ambassadeur du Ghana au Burkina Faso a déclaré à Reuters que les militants profitaient de la porosité des frontières. Il a démenti l'idée d'un pacte de non-agression avec les djihadistes et a déclaré que le Ghana travaillait avec le Burkina Faso pour les débusquer.
Place maintenant au sport avec Nanit Alani. Bonsoir Nanit.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
La FIFA et la Fédération ghanéenne de football s'apprêtent à discuter de la mise en œuvre du VAR dans les ligues domestiques du Ghana.
La FIFA prévoit une réunion avec la Fédération ghanéenne de football et d'autres parties prenantes pour discuter de l'implémentation de la technologie VAR dans les championnats nationaux du Ghana. Cette initiative vise à moderniser le football ghanéen et à améliorer l'arbitrage en termes de précision et de transparence. La VAR, déjà utilisée dans de nombreuses grandes ligues, reste nouvelle en Afrique. Les discussions aborderont les aspects logistiques, financiers et opérationnels nécessaires à une mise en œuvre réussie, y compris la formation des arbitres, l'acquisition d'équipements et la recherche des partenariats pour financer le projet. Les clubs ghanéens espèrent que la VAR réduira les décisions controversées et renforcera la confiance des fans.
Bénéficiant d'une grâce présidentielle, les joueurs du Zamalek ont été libérés après leur condamnation aux Émirats Arabes Unis.
Le président des Émirats Arabes Unis, Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a gracié les joueurs de Zamalek, Mostafa Chalabi et Nabil Emad, ainsi que le directeur sportif Abdel Wayed El Sayed, après leur condamnation à un mois de prison pour agression suite à une altercation avec un organisateur de stade durant la demi-finale de la Supercoupe d'Égypte à Abu Dhabi, où Zamalek avait battu les Pyramides. Selon l'agence de presse émiratie, cette grâce s'inscrit dans le cadre des relations fraternelles entre les Émirats et l'Égypte. Le ministère égyptien de la Jeunesse et des Sports a également déclaré que la crise serait résolue rapidement avec un retour imminent des joueurs tout en respectant les cadres juridiques en vigueur.
Football féminin, les États-Unis et la Corée du Nord s'affrontent ce mercredi en première demi-finale de la Coupe du Monde des moins de 17 ans en République dominicaine.
Les États-Unis et la Corée du Nord s'affrontent en demi-finale de la Coupe du Monde féminine des moins de 17 ans de la FIFA, organisée en République dominicaine, et espérer une place en finale contre le vainqueur du match entre l'Espagne, double tenante du titre, et l'Angleterre qui n'a pas atteint les demi-finales depuis 2008. Les États-Unis ont battu en quart de finale 2-0 le Nigeria, alors que la Corée du Nord avait vaincu la Pologne 1-0. Les deux pays vont se retrouver opposés à la Coupe du Monde féminine des moins de 17 ans pour la quatrième fois de leur histoire.
Page des sports VOA Afrique signée Nanit Alani. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde de Lionel Gaïma. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h/24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.